Mon cher Pierre-Yves, il y a comme deux questions ce matin qui, je dirais, trottent dans la tête de nos auditeurs. Un, à quel moment dois-je retourner travailler sur place, donc au bureau? Et deuxièmement, est-ce que je suis vraiment obligé de retourner travailler au bureau?
C'est une bonne question, hein? La première, c'est, je pense que c'est l'employeur qui va regarder sa stratégie, parce que on a bien beau dire du côté du gouvernement, « Ah, vous pouvez revenir au bureau. » Finalement, on change d'idée, la santé publique dit « Ah, revenez pas tout de suite. » Quand tu es un employeur, tu budgètes sur un trimestre, une année, 5 ans. Tu veux savoir où tu loues tes espaces bureaux, qu'est-ce qui va changer dans les 6 prochains mois. La COVID n'est pas contrôlée. Donc, si tu es un décideur, puis tu veux faire ce qu'on dit dans le jargon, là, couvrir ton derrière, mais la stratégie dominante, c'est de dire, avec l'information que j'ai présentement dans les mains, je vais prendre la décision de poursuivre le télétravail pour une période fixe. Comme ça, tu ne te retrouves pas en tergiversation d'espace bureau, de sous-traitant.
Mais là, le gouvernement du Québec a dit, on va revoir, pour ce qui est des employés du gouvernement, des fonctionnaires, là, fin septembre.
Oui, mais tu sais, imagine, là. T'as des employés sous ta charge, 100 employés en dessous de toi, puis là, à tous les mois, tu vas leur dire, on rentre pas, ordinateur, bureau, nettoyage, service d'étage, name it. Il y a quelque chose là-dedans qui est, on gère l'entrée au bureau comme si c'était une famille qui allait ou pas au restaurant. C'est plus complexe que ça. Et l'autre point dont on parle jamais, c'est qu'on parle du télétravail de façon très idyllique. On a dans notre tête télétravailleur, employé de bureau qui s'attache à numériser, qui peut l'affaire maintenant de repentir. Hey, c'est pas tout le monde au Québec, ça. Ça, c'est l'affaire qu'on oublie, tu sais. Oui, dans les tours à bureau au centre-ville, c'est une affaire. Mais dans les centres de distribution, dans les services à la clientèle, dans tout ce qui est physique, les gens sont là. Oui, les centres d'appel ont envoyé les gens chez eux. Oui, les comptables sont rendus chez eux. Oui, les avocats parlent à leurs clients par Zoom au lieu de les rencontrer. Mais ça, il y a une grosse partie qui est temporaire. Puis il y a une patente qu'on oublie beaucoup là-dedans, c'est le contrôle à distance. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'est difficile de ne pas être géré. Ils sont habitués depuis leur primaire à se faire dire « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vas là, tu fais telle tâche ». Puis là, d'être chez soi, contrôlé à distance, ça ne veut pas dire que tu es fait pour être capable de faire ça. Pour vrai, là, quand tu as un peu de trouble, il y a des gens qui veulent absolument être sécurisés par quelqu'un d'autre. Et donc, ça, c'est une...
Mais je comprends, puis moi, je ne crois pas qu'on va être à 100% en télétravail là, dans les catégories d'emploi où c'est possible, pour toutes sortes de raisons. Mais tu sais, là, on le disait l'autre jour, tu as sauvé ou tu sauves actuellement 10-12 heures de déplacement.
Ah oui.
Puis surtout, mettons...
bureau.
Ben oui. Puis mettons que tu travailles au centre-ville, là, as-tu le goût, quand tu entends la liste des chantiers à venir... De taper ça. Tu vas tout faire pour essayer de rester, mettons, 3 jours/semaine en télétravail, puis venir peut-être 2 jours max.
Puis l'autre point, c'est quand tu vas arriver en télétravail, puis qu'on va réduire l'espace bureau ou partager avec une autre entreprise, parce que ça va se voir.
Ouais.
La question, c'est est-ce que les deux entreprises vont avoir les mêmes politiques COVID? Les mêmes politiques, la même gestion et le même contrôle? T'imagines, là, t'es dans un espace ouvert, 2 entreprises se le partagent avec des paravents, puis un côté qu'on contrôle moins les masques que l'autre. Ça va créer des situations spéciales. Mais chose certaine, on a bâti notre centre-ville comme si on faisait le télétravail dans une autre vie, mais c'est plus ça, là, on le fait pas. Le centre-ville n'est pas fait pour ça. J'ai hâte de voir comment on va réaménager la ventilation, l'espace bureau, les divisions. Puis surtout, le
je vais donner un exemple. Tu sais, tu parlais de la vaccination. Là, il y a un auditeur qui m'a écrit ce matin qui travaille dans un bureau, puis il y a des collègues qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas être vaccinés, puis qui s'en vantent. Là. Mm-hmm. Il dit, moi, je suis pas bien. Je suis pas à l'aise avec ça. Là.
Moi, j'ai revu le film Épidémie avec Dustin Hoffman.
Et?
Je peux te dire une affaire, c'était... ça fait peur.
parle-moi de la Banque Royale et ses profits.
Bon, écoute, dans les journaux, on dit Banque Royale, profit spectaculaire. Hausse de, je sais pas moi, 34 % du bénéfice net. Puis je dis tout le temps, ah ça c'est drôle, hein? Il n'y a pas eu un éclat spectaculaire au Canada. Oui, il y a une augmentation des prêts hypothécaires. Oui, les gens ont contracté plus de prêts hypothécaires parce qu'il y a une augmentation. Mais la vraie patente derrière tout ça, c'est que quand la pandémie est arrivée, Paul, les banques ont paniqué, tu comprends? Et ils se sont dit, on va nettoyer tout ce qu'on peut. C'est-à-dire... Si, par exemple, on prévoit faire des pertes, on va prendre ce qu'on appelle des provisions pour pertes sur prêts. C'est-à-dire, il faut que tu prennes un élément, si tu veux, négatif à l'état des résultats, puis négatif au bilan, pour dire, regardez, voici nos prêts, voici nos revenus, mais on pense qu'il y a une portion qui ne paiera pas. Donc, voici une perte sur prêt qui diminue nos revenus de façon anticipée. Et là, ce qui arrive présentement, c'est qu'évidemment, ce qui est arrivé, c'est que les pertes ont été moins grandes que prévues. Et donc, on renverse des provisions. Et donc, on déclare...
OK, c'est un jeu comptable.
Ben, c'est un jeu comptable obligatoire parce que quand tu sais que tu vas faire des pertes ou tu penses faire des pertes, il faut que tu les constates immédiatement par prudence. Mais là...
T'en fais moins,
donc tu renverses. Donc, juste te donner une idée, l'année passée, dans le trimestre, on a déclaré 675 millions de provisions pour pertes sur prêts. Puis là, on les renverse. On déclare, si tu veux, un revenu de 540 millions. Donc, tu as un écart de plus de 1,2 milliard de revenus qui sont liés simplement au jeu de provision. Et ça explique l'augmentation majeure du bénéfice. Donc, je ne veux pas perdre personne au niveau comptable, mais c'est juste pour dire, c'est une technicalité comptable de prudence l'année passée que sous-estimer les revenus. Ou les bénéfices, si tu veux. Et cette année, ça surévalue les bénéfices. C'est comme ce qu'on appelle de la gestion de revenus.
Pour afficher un beau profit.
Ben, c'est pour montrer la réalité avec les nouvelles connaissances qu'on a. Mais pensez pas que la Banque Royale est partie pour la gloire. C'est simplement un renversement de provisions.
Pourquoi que la Banque Royale, comme les autres banques, se tire pas trop mal d'affaires?
Juste te donner une idée, la Banque Royale, j'ai regardé ça ce matin, c'est un, ils sont impliqués partout dans les systèmes de paye, dans les paiements. Mais quand on regarde les multiples, c'est incroyable. C'est presque 5 fois les actifs de la Banque nationale, 4.8, puis c'est 38 fois les actifs de la Banque Laurentienne. Te donner une idée comment la Banque Royale est grosse.
Merci, monsieur. Bonne journée. Salut. Il est 7h22. Toujours la 13, Marc.